Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
À tous, une Europe qui prend davantage en main sa défense, quand bien même l'OTAN conserve tout son rôle. La France plaidait déjà en ce sens. Une évolution qui est aujourd'hui portée et accélérée par la guerre en Ukraine. L'Allemagne est sans aucun doute le pays d'Europe où cette révolution est la plus marquée. Non seulement Berlin se déclare désormais en faveur de livraison de blindés, de l'armement lourd à Kiev, mais la coalition au pouvoir veut investir 100 milliards d'euros dans la défense. Les Verts, partenaires du gouvernement, du chancelier social-démocrate Olaf Scholz, appuient ce changement. Mais les militants d'un parti historiquement pacifiste s'interrogent. Reportage à Berlin chez les Verts, signé Léo Brauer-Potier.
C'est un rendez-vous que les Verts du quartier de Charlottenburg-Wilmersdorf connaissent bien. Chaque jeudi soir, ils se retrouvent pour discuter politique autour d'un verre et d'une salade de lentilles. Une petite dizaine de personnes échangent sur l'actualité et sans surprise, c'est bien la guerre en Ukraine qui préoccupe les participants. Beate, une enseignante de français aujourd'hui à la retraite, s'interroge sur la pertinence de cette enveloppe de 100 milliards d'investissements pour l'armée allemande.
C'est difficile pour moi, je dis, parce que c'était le bon moment de dire il faut faire quelque chose pour aider l'Ukraine. Mais je trouve quand même difficile d'augmenter d'une telle somme tout d'un coup sans avoir vraiment parlé avec les parlementaires, avec la population. Elle aussi était toute surprise, je crois. Tout le monde était surpris. Et moi, je suis un peu allergique à de telles sommes parce qu'on ne sait pas s'ils sont vraiment versés d'une manière utile ou vraiment nécessaire, disons.
Selon plusieurs sondages, la majorité des adhérents au Parti Vert soutient les exportations d'armement vers l'Ukraine. Surprenant pour un parti politique historiquement proche des courants pacifistes, notamment chez les plus anciens militants. Friedel Grützmacher a adhéré aux Verts en 1981, en pleine crise des euromissiles, lorsque Russes et Américains s'engageaient dans une course effrénée aux armements nucléaires sur le sol européen.
À cette époque, j'habitais dans un endroit où les missiles Pershing des Américains transitaient. On a toujours dit, ces fusées, nous n'en voulons pas. Si elles sont ici, cela signifiait, nous serons les premières cibles des SS-20 russes. Nous avons protesté. Et oui, c'était du concret.
40 années plus tard, la ministre verte Annalena Baerbock, qui s'occupe des affaires étrangères, se déclare en faveur d'exportation de chars d'assaut vers l'Ukraine, malgré les réticences d'Olaf Scholz et des partenaires libéraux. Une potion amère qu'il faut bien savoir avaler, pour Friedel Grützmacher.
Je ferai tout pour que le parti ne change pas sa ligne sur les exportations d'armement, mais je soutiendrai quand même toute action qui vise à renforcer et à aider l'Ukraine. Quelle forme ce soutien doit-il avoir? Nous devons encore en discuter. Pour moi, ce qui est important chez les Verts, c'est que l'on essaye continuellement de dialoguer, de discuter pour prévenir les conflits, afin d'éviter qu'ils ne dégénèrent, afin d'enrayer l'escalade militaire, afin que l'on puisse préserver des vies humaines.
Christoph Wappler est moins optimiste. L'élu local vert au Parlement de Berlin se demande si la guerre en Ukraine ne va pas tout simplement ébranler durablement son parti.
On a toujours dit pas d'armes pour les zones de guerre ou de conflit. Aujourd'hui, nous nous écartons de ces principes à cause de l'agression brutale de Poutine sur l'Ukraine. C'est une situation qui aura des répercussions sur les fondamentaux des Verts, leur programme et leur politique. Il n'y a pas de solution facile ici. Le pacifisme et l'antimilitarisme sont ancrés dans les fondamentaux des Verts, tout comme le refus de la violence. Je me sens moi-même déchiré sur cette question.
Couché en rond sur le tapis, le chien de Jochen dort paisiblement sans prêter attention au débat. Ce traducteur de profession et membre des Verts depuis plusieurs années s'efforce d'accorder son aversion pour la force avec le besoin de protéger ce qui lui est cher.
Alors moi-même, il faut que je souligne, je suis objecteur de conscience, donc j'ai refusé de participer à la guerre ou de faire mon service militaire ici en Allemagne à l'époque. De l'autre côté, il y a des droits de l'homme qu'il faut savoir respecter aussi, qu'il faut défendre aussi. Et donc, on a quasiment pas le choix pour l'instant de ressortir à des moyens militaires pour pour savoir se défendre.
Malgré les débats internes, le Parti Vert soutient aujourd'hui les nouveaux investissements dans l'armée allemande et l'envoi d'armes en Ukraine, car l'heure est résolument au pragmatisme. En particulier depuis que les Verts allemands sont au gouvernement et entendent bien montrer qu'ils peuvent évoluer, même sur les questions les plus difficiles.
Dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, un pays, la Turquie, tire son épingle du jeu en se posant comme un interlocuteur privilégié entre les deux belligérants. Aux yeux du président turc Recep Tayyip Erdogan, cette guerre est une façon de prouver l'efficacité de sa diplomatie par rapport aux Européens et d'appuyer l'idée selon laquelle les institutions internationales sont devenues inefficaces. À Istanbul, Anand Lawar.
La guerre en Ukraine est un test pour la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, qui prétend depuis des années que ses liens étroits avec la Russie ne sont pas incompatibles avec son appartenance à l'OTAN, qu'ils sont même à l'avantage de l'Alliance Atlantique, ici en contrebalançant l'influence de Moscou, en Syrie, en Libye, dans le Caucase, là en favorisant le dialogue. Entre la Russie et l'Ukraine, la Turquie se pose donc en médiateur. Elle est, de fait, le seul pays à avoir accueilli à deux reprises des négociations russo-ukrainiennes. Pour la diplomatie turque, c'est déjà une petite victoire, la preuve que son jeu d'équilibre est utile et que la Turquie compte sur la scène internationale. Mais pour Recep Tayyip Erdogan, c'est encore un peu plus que cela. Une forme de pied de nez aux leaders européens qui rechignaient ces dernières années à s'afficher à ses côtés, contestaient publiquement le rôle de son pays au sein de l'OTAN et sa loyauté, et présentaient en coulisses la Turquie comme un pays isolé, fâché avec tous ses voisins, imprévisible, voire dangereux, car prompt à créer des conflits. Certes, l'image de faiseur de paix que Recep Tayyip Erdogan se taille en ce moment est aussi lié au recentrage de sa politique étrangère depuis l'année dernière, à ses efforts d'apaisement avec l'Europe et des puissances régionales comme l'Égypte, Israël et les monarchies du Golfe. Mais le fait est que c'est Istanbul en Turquie, et non une capitale européenne ou une institution internationale, qui a le plus de chances d'accueillir un jour un sommet Poutine-Zelensky, président russe et ukrainien, qui pourrait mettre fin au conflit. Cette guerre en Ukraine permet aussi au président turc de marteler l'un de ses slogans préférés sur la scène internationale, le monde est plus grand que 5 pays. Autrement dit, plus grand que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis, qui disposent tous d'un droit de veto et se retrouvent paralysés face à leurs divergences, aussi inefficaces à rétablir la paix en Ukraine qu'en Syrie ou ailleurs. Dans presque tous ses discours sur l'Ukraine, Recep Tayyip Erdogan appelle donc, je cite, à une réforme profonde de l'architecture sécuritaire internationale qui accorderait davantage de place aux pays tels que la Turquie.
Quelle justice pour les victimes civiles des exactions commises en Ukraine par les troupes russes, notamment à Boutcha. Que peut faire la Cour pénale internationale? Florence Hartmann a été pendant 6 ans la porte-parole de Carla Del Ponte, la procureure générale du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Cette spécialiste des Balkans dresse des parallèles entre les logiques guerrières de Slobodan Milosevic et de Vladimir Poutine, et elle explique les défis qui attendent la justice internationale. Louis Seyé l'a rencontré à Sarajevo.
Florence Hartmann, bonjour. Vous avez été pendant 6 ans la porte-parole de Carla Del Ponte, la procureure en chef du tribunal pénal international, et également sa conseillère sur les Balkans. Au vu des images et des récits qui nous parviennent d'Ukraine actuellement, est-ce qu'on peut faire des parallèles avec les conflits des années 90 en ex-Yougoslavie ?
Bien sûr, et c'est justement ce qui est le plus révoltant, c'est que ça se produise à nouveau à proximité de nos propres pays. Il y a une dimension militaire, certes, mais on voit bien que la guerre habille une attaque particulière contre les civils. Et certaines images sont frappantes parce que même géographiquement, il y a des lieux qui ressemblent. On pense à la Croatie, à Vukovar, on pense à la Bosnie. Le massacre des civils, comme à Boutcha, font penser à toutes les villes qui ont été nettoyées, purifiées ethniquement, comme on disait à l'époque, avant que ce soit qualifié juridiquement.
Alors Karim Khan, le procureur général de la Cour pénale internationale, a annoncé début mars l'ouverture immédiate d'une enquête sur le conflit en Ukraine. Comment est-ce qu'on établit des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ?
J'ai envie d'abord de dire que l'existence de la justice internationale qui a commencé avec l'ex-Yougoslavie et le Rwanda dans les années 90 et qui a conduit à la création de cette cour permanente aurait dû avoir un effet dissuasif sur les crimes de masse. Or, il continue à se répéter, on l'avait vu sur d'autres lieux de guerre, comme notamment en Syrie plus récemment. Le fait que le procureur aille sur le terrain tout de suite, c'est très important. C'est pour bien montrer justement que ces crimes ne resteront pas impunis. Et il est important d'enquêter le plus vite possible. Il y a les témoignages, mais il y a aussi le type d'arme employée pour savoir justement si c'est délibérément contre les civils ou si c'est dans le cadre d'une action militaire, parce que ce sera l'élément utilisé par la défense si un jour il y a des procès. Donc il faut absolument recueillir le maximum d'informations et aussi les témoignages des personnes. Mais il faut travailler le plus vite possible pour ne pas perdre la connaissance, pour ne pas perdre les éléments de preuve qui permettront de parvenir à condamner les responsables.
Et est-ce que ce travail d'enquête, il vous paraît plus simple aujourd'hui si vous comparez à toutes ces enquêtes qui ont été menées pour l'ex-Yougoslavie ?
Peut-être, c'est jamais simple, c'est extrêmement difficile et c'est un temps long la justice. À première vue, on peut se dire oui parce qu'il y a une assistance qui manquait énormément sur l'ex-Yougoslavie ou sur le Rwanda. On l'a vu dans le cadre de Boutcha, il y a un déni des auteurs présumés, des crimes qui ont été commis et une réponse de l'information que peuvent recueillir les services de renseignement extérieurs, en l'occurrence occidentaux a priori. Et pouvoir donner une image satellite qui dit au moment des crimes c'était bien telle armée, c'est déjà un grand élément dans l'enquête qui est nécessaire. Mais est-ce qu'il sera possible d'interroger les membres des unités ou des bataillons qui étaient présents à Boutcha pour savoir ce qui s'est vraiment passé, pour pouvoir établir la responsabilité et construire des actes d'accusation, ça on ne sait pas, parce que la Russie ne coopérera sans doute pas.
Côté ukrainien, il y a une volonté affichée de voir un jour Vladimir Poutine comparaître devant la justice internationale, mais comme avec Milosevic, est-ce que la diplomatie ne va pas prendre le pas sur la justice ? Est-ce que la nécessité de dialoguer avec Poutine pour mettre fin à la guerre ne rend pas impossible une éventuelle inculpation ?
On a souvent tendance à penser qu'on ne peut pas inculper un chef d'État en exercice. Or, Milosevic a été inculpé comme chef d'État en exercice pour le Kosovo en 1999. On peut envisager que Karim Khan, le procureur de la CPI, soit en position de faire une inculpation dans les quelques semaines qui viennent. Et la difficulté, j'imagine, pour la diplomatie et nos gouvernements aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait si jamais il est inculpé ? Il y a une évidence, Boutcha et tous les crimes qu'on a pu voir ces dernières semaines. Mais ils doivent se dire aussi, mais on va devoir négocier. Espérons qu'il y aura un cessez-le-feu en Ukraine et que ce carnage s'arrête. Est-ce qu'on va pouvoir s'asseoir avec quelqu'un qui est inculpé de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ? Parce que c'est possible aussi. Et est-ce que Poutine sera un jour jugé ? Sans doute, il ne sortira pas de Russie, donc peut-être qu'il ne sera jamais jugé. Mais il faut absolument établir les faits et continuer ce travail de documentation et inculper. D'abord, Poutine n'est pas le seul, il est le commandant suprême. Donc sa responsabilité sera sans doute établie, mais il y a aussi toute la chaîne de commandement et il faut faire comprendre aussi aux soldats sur le terrain qu'eux-mêmes ne pourront jamais plus sortir de leur pays ni dormir tranquille parce que s'ils bougent, où que ce soit, ils peuvent être arrêtés un jour.
Лише не кажи, що хочеться пити. Досить трендіти, засни.
La guerre en Ukraine et cette question, quel rôle pour la culture en temps de guerre ? À Kharkiv, deuxième ville du pays, centre culturel et capitale de l'industrie du livre dans le pays, avec 3 maisons d'édition et 3 imprimeries, l'activité a été stoppée net par l'offensive russe. Mais ces dernières semaines, malgré les bombes, le pilonnage par l'armée russe, la culture tente de reprendre ses droits. La musique que l'on vient d'entendre, c'est celle d'une petite cérémonie organisée dans un abri anti-bombe pour lancer la publication d'un livre pour enfants, tout un symbole retransmis sur Facebook car il s'agit du premier ouvrage publié depuis le début de la guerre, Virginie Pironon.
Avant la guerre, la maison d'édition Vivat, la deuxième du pays, publiait jusqu'à 400 ouvrages par an, de la littérature pour les adultes et les enfants. Dans les semaines qui ont suivi l'agression russe du 24 février, l'activité s'est arrêtée, la centaine de salariés luttant d'abord pour sa survie. Depuis, la très grande majorité des employés, 90%, ont quitté la ville, tout comme la directrice générale de la maison d'édition, Yulia Orlova, désormais réfugiée en Pologne, à Varsovie.
Sincèrement, je ne souhaite à personne de vivre cela, sincèrement, parce que travailler en temps de guerre est pratiquement impossible, tout comme il est impossible de se préparer à la mort. Je n'aurais jamais pensé que de nos jours, au XXIe siècle, je pourrais être confrontée à de tels problèmes. Un membre de la famille de notre comptable, une femme, a été victime d'une explosion. Ses bras et ses jambes ont été arrachés. Et nous, toute l'entreprise, nous avons essayé de l'aider, de l'amener à l'hôpital. Mais malheureusement, son pronostic vital était engagée et elle est décédée.
Passé la sidération, le choc et une fois les salariés hors de danger à l'abri des bombes, a surgi cette question. Que faire désormais? Comment se battre même à distance contre l'ennemi russe? Réponse, en continuant tant bien que mal à travailler. Et c'est ainsi que vient de se produire ce que la maison d'édition appelle un petit miracle. Le lancement officiel d'un livre pour enfants en ukrainien, premier ouvrage publié en temps de guerre dans le pays. Il s'agit d'un best-seller de l'auteur américain Adam Mansbar au titre volontairement provocateur « Go fuck to sleep » en anglais, en français « Dors et fais pas chier ». Un livre qui évoque la difficulté que peuvent avoir parfois les parents à faire en sorte que leurs enfants s'endorment.
Nous avions acheté les droits avant la guerre et nous avions prévu de le sortir au mois de février. Évidemment, la guerre a tout bouleversé. La traduction de ce livre a été assurée par Sergueï Jadan, notre célèbre poète, auteur ukrainien. Il a été nommé cette année pour le prix Nobel de littérature. C'est un habitant de Kharkiv, il fait la fierté de notre ville et nous lui sommes très reconnaissants d'avoir accepté ce projet.
Sergueï Jadan a non seulement accepté de traduire le texte, mais il en a également fait une chanson présentée ce mois d'avril en direct sur Facebook depuis un abri anti-bombe de Kharkiv. Un acte de résistance pour l'auteur, poète et donc traducteur.
Je vis à Kharkiv depuis 30 ans et j'aime Kharkiv. J'ai beaucoup de travail ici, alors pourquoi je partirais?
D'autant plus que la culture en temps de guerre, selon Sergueï Jadan, peut faire beaucoup.
Elle peut aider à tenir, elle peut nous rappeler que nous avons vécu en temps de paix et que nous retrouverons cette vie normale. C'est important sur un plan psychologique, émotionnel, parce que la guerre n'a rien d'une situation normale. Beaucoup de gens ne sont pas prêts psychologiquement à la supporter, à endurer toutes ces informations, à voir ce qu'ils voient de leurs propres yeux dans les rues. Tout cela est extrêmement lourd, difficile à traverser. Et la culture, c'est quelque chose qui peut nous aider à retrouver un sentiment de normalité.
Retrouver un sentiment de normalité, mais aussi résister face à l'agresseur.
Quand tu arrêtes de faire ce qui est important pour toi, cela veut dire que tu es brisé, que tu as capitulé, que tu as peur. Et je pense que l'occupant, notre ennemi, la Russie, eh bien c'est exactement ce qu'elle veut, que nous ayons peur, que nous quittions nos villes, que nous cessions de résister. Mais je suis sûr que cela n'arrivera pas, parce que tout le monde ici est prêt à défendre la ville, à défendre le pays. C'est notre pays, notre terre. Nous ne baissons pas la tête et nous restons ici.
Se battre jusqu'à la victoire. En attendant, imprimé au mois de mai à l'ouest de l'Ukraine, le livre pour enfants sera disponible à la vente dès la mi-juin. Autre pas en avant pour les éditions Vivat, leur site de vente à distance vient tout juste d'être rétabli. Les lecteurs en langue ukrainienne, de plus en plus nombreux en réaction à la guerre, peuvent à nouveau passer commande.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Donatien Cahu. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous au podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. À demain.